RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. Bonjour à tous et content de vous retrouver pour discuter et débattre comme tous les jours en direct sur RMC et RMC Story. C'est vous qui prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules. Nous sommes en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Dans les GG aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. Bonjour Emmanuel.
Mes respects et mes amitiés aux fidèles de l'émission et bonjour à tous.
Nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot syndicaliste. Bonjour Bruno.
Bonjour à tous et à toutes.
Et puis Zora Bitton nous accompagne aujourd'hui, les cadres de la fonction publique. Bonjour ma chère Zora.
Alors bonjour à tous. Juste un petit mot rapidement. J'aurais embrassé la tribu de Zora. On est près de 7000.
Hein?
On est près de 7000 en un mois. C'est un élan citoyen assez incroyable.
Il y avait la tribu de Dana et la
tribu
de Zora.
Non, il y a la tribu de Zora. La tribu de Zora, c'est une tribu républicaine française avec relier, veiller et transmettre. C'est parti pour la mobilisation citoyenne. Tous fans des GG d'ailleurs. Tous fans des GG. Et donc, je les embrasse. Et voilà, fidèles au poste et fidèles à l'action citoyenne.
Eh bien, la tribu de Zora va t'entendre, t'écouter aujourd'hui encore, parce qu'on a pas mal de sujets de discussion sur les élections municipales. Est-ce qu'il faut autoriser le vote aux étrangers non européens? Est-ce qu'il faut publier le prix de ce que vous payez à l'hôpital? Vous savez qu'une jambe cassée, c'est entre 60 000 et 70 000 euros. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on doit savoir précisément ce que l'on paye comme soin? Vous venez en discuter avec nous. Premier élément de discussion avec les GG, avec les grandes gueules. Et vous allez pouvoir intervenir au 32-16. On a 61% des Français qui se disent insatisfaits de leur salaire. Est-ce que c'est votre cas? C'est au 32-16 que vous venez réagir.
I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit quand lumière.
Je l'ai dit, c'est la chanson qu'il fredonne sous la douche en ce moment.
Oh là là, mon Dieu.
Ah mais Louis, tu sais, on ne tient plus maintenant. Il
faut qu'il arrête de se laver. Hein.
C'est une étude intéressante sur le ressentiment des Français aujourd'hui par rapport à leur fiche de paye. 61% sont insatisfaits de leur salaire.
Oui, c'est un point de crispation pour une majorité des Français, hein, c'est la rémunération. Les Français disent on n'est pas assez bien payé. 61%, c'est peut-être d'ailleurs l'un des thèmes majeurs de la prochaine présidentielle. C'est comment faire en sorte que les Français soient mieux payés dans ce pays. La moitié des salariés du privé touchent moins de 2200 euros net par mois. La moitié. Peut-on vivre décemment aujourd'hui en France en touchant moins de 2200 euros net par mois lorsqu'on connaît le prix des loyers qui augmente, l'inflation, le prix des denrées alimentaires, les charges fixes également. Un quart des Français en France, hein, touchent moins de 1750 euros net par mois pour un temps plein. Hein. Donc il y a un vrai souci. Et c'est intéressant parce que dans un autre sondage, sondage Elab, quand on demande aux Français, connaissez-vous l'écart entre le brut et le net? Les Français ne savent pas en fait. Les Français ne se rendent pas compte qu'entre le brut et le net, il y a une énorme différence parce que il suffit de regarder sa fiche de salaire. Il y a énormément de cotisations, de taxes, d'impôts en tout genre pour financer l'État-providence. Sauf que au final, le Français n'a plus grand-chose dans son porte-monnaie.
Ben oui.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Toi qui étais chef d'entreprise, pour mieux payer et que les Français se disent « Ah ben je suis content de mon salaire ». Emmanuel Devilliers.
Alors plusieurs remarques en étant au plus simple, parce que on peut évidemment gloser à perte de vue. La première chose, c'est que depuis l'euro, moi je l'avais qualifié à l'époque de spirale à la vie chère, on a eu une augmentation du coût de la vie extraordinaire par... les arrondis d'abord du franc à l'euro qui ont toujours été à la défaveur du pouvoir d'achat, et puis ensuite par tout un tas d'augmentations liées à des phénomènes internationaux de matières premières notamment. Donc il y a l'augmentation du coût de la vie qui explique ce ressenti des Français qui est incontestable, qui est largement partagé. Les Français n'y peuvent rien, évidemment, quant à ce coût de la vie, sauf à couper dans telle ou telle petite dépense, mais ça ne résout pas le problème de fond. Et ils se tournent naturellement vers l'employeur, quel qu'il soit, même s'ils sont à leur compte, vers la possibilité contributive d'obtenir plus d'argent. Mais les entreprises, elles, quand elles sont privées, ne peuvent pas répondre à ces sollicitations de manière massive parce que elles sont déjà plus ou moins au taquet, qu'elles soient d'ailleurs petites, moyennes ou grandes. Et quant à l'État, il est surendetté, donc il n'a pas la possibilité non plus d'indicier significativement les salaires. Il faut d'ailleurs faire observer qu'une indiciation, même minime, de toute la fonction publique, qu'elle soit d'État ou des collectivités territoriales, a un impact financier extraordinaire. Bon, moi, je l'ai vécu pendant 35 ans dans les 6 entreprises dont je me suis occupé. Quand vous faites une indiciation, même minime, des salaires, vous avez un impact ensuite dans le coût total chargé qui est considérable. Vous avez une PME de 50 salariés, vous faites un geste salarial pour ne pas laisser les salaires bloqués, vous êtes tout de suite à 50 000 euros en addition annuelle. Donc c'est un enjeu qui est considérable, et c'est vrai que c'est la torpeur du chef d'entreprise, j'en termine par là, la torpeur du chef d'entreprise, c'est de trouver le moyen de donner satisfaction aux aspirations des salariés, sans mettre l'entreprise en difficulté, parce que encore une fois, l'addition avec les charges est astronomique.
La faute aux cotisations et aux charges. Bruno Poncet.
Si moi tu me poses la question si le travail ne paye pas assez, moi je dis que je gagne bien ma vie en fait. Moi je suis à 80% SNCF, je fais 2200 euros par mois, je suis cadre, j'ai passé 2 examens pour être là, j'ai 25 ans de boîte, je peux me dire que je gagne bien, sauf que c'est mon train de vie.
Tu trouves qu'après 25 ans de boîte, gagner 2200 euros, c'est bien gagner sa vie?
80%, je suis à 80%. Si j'étais à temps plein, je serais à 2007. Moi quand je suis entré à la boîte en 3-8, je faisais 1100 euros. Et je travaille 3 dimanches sur 5. Je peux te garantir que pour moi,
donc c'est... En fait, on s'habitue à avoir des petits salaires.
Non, c'est pas un petit salaire. Hein, soyons raisonnables. C'est pas un petit salaire. Sauf que moi, c'est ma vie derrière. Je trouve que mon train de vie est hyper beaucoup baissé, en fait. Avec 1100 euros, je te dis pas que je vivais mieux, mais je trouvais qu'en fait, j'avais un reste à vivre qui me paraissait plus important en proportion que ce que je gagne. Tu vois, aujourd'hui, je te dis pas que moi, je me prive de rien. C'est évident. Et en plus, ici, j'ai un complément de salaire. Donc, c'est pas moi qui vais me plaindre. Mais je trouve que c'est pas ce que tu gagnes, le problème. C'est ce qui te reste après pour vivre. Et quand je les entends tous te dire, oui, effectivement, augmentons les salaires, mais c'est pas le problème d'augmenter les salaires. Parce que si tu augmentes les salaires, ils vont augmenter l'inflation, et derrière, de toute façon, tout augmente en foulée. Le pire, c'est quelqu'un qui habite en région parisienne ou dans une grande ville. Son loyer fait environ entre 30 et 40 et 50% de ses revenus. Et je parle, alors si t'es deux, c'est pareil en fait. Si t'es deux, de toute façon, tu multiplies le problème par deux. Donc en fait, ce qui te reste à vivre est toujours pas assez. Et en plus, si t'habites un peu loin de ton travail, il te faut une voiture, il faut payer des transports en commun. Enfin, en fait, c'est le te reste à vivre qui est vraiment compliqué. Et ça fait un paquet d'années que ça dure. Et depuis le passage à l'euro, c'est catastrophique.
Ça veut dire que les salaires sont pas assez hauts.
Mais c'est pas bon, les salaires, c'est le reste à vivre. En fait, c'est l'inflation.
Bah oui, mais.
Non, mais non, c'est
l'inflation,
tout.
L'inflation, elle est redevenue correcte.
Non, mais t'as pas compris quelque chose.
Ce matin,
j'ai entendu quelque chose, moi, qui est très simple. Oui. Le chocolat a pris 30% en 2 ans.
D'accord.
Ok, tout le monde te dit le chocolat a pris 30%, manqué de matières premières. Cette année, il y a jamais autant de matières premières de chocolat. Le chocolat n'a pas baissé. Donc en fait, le problème, c'est pas que l'inflation, c'est aussi le fait que t'as tellement d'intermédiaires, les grandes centrales et les gens, tout le monde veut se gratter sur le dos de celui qui achète.
Non mais oui, mais ça c'est
le
problème, c'est que c'est très contradictoire, c'est qu'on peut pas à la fois vouloir que nos producteurs, ceux qui produisent notre nourriture, soient mieux payés.
Excuse-moi, le chocolat est produit en France.
Et puis le chocolat, c'est pas une denrée nécessaire.
Oui, mais c'est une denrée qui est plus consommée en France.
Mais on peut pas vouloir que nos agriculteurs soient mieux payés et regretter qu'aujourd'hui ça coûte un peu plus cher. Ça, c'est quand même assez contradictoire. Le problème, c'est que...
C'est pas contradictoire de dire qu'il faut éviter de payer les intermédiaires.
Ce que tu défends, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'on privilégie la consommation, consommation de produits étrangers. En revanche, et c'est sur le dos des travailleurs. C'est-à-dire que tout repose sur le travail. Le coût du travail est trop élevé. Tout le monde le dit. Toute notre protection sociale repose sur le travail. Le système des retraites, vous voulez la retraite à 60 ans,
ça se paye.
Ça se paye. La retraite à 60 ans, ça fait baisser les salaires.
Ça vient me faire rire. C'est le coût du travail. Tu me dis à moi que je suis pas assez payé après 25 ans de boîte. Faut savoir ce que
le coût
du travail. Peut-être que moi, si j'ai payé 500 balles, je serais mieux, en fait.
Mais parce que tu devrais être mieux payé. Le problème, c'est que ton employeur paye le double pour te donner 2200, il paye 4500.
Mais si j'étais mieux payé, en fait, je serais encore plus chargé que là, en fait. Moi, j'ai gagné moins une période de ma vie. Je donnais moins.
Et tu dépenses moins cher. Au SMIC, tout le monde au SMIC. Voilà.
Très accessoirement, avant que Zoran s'exprime, la vie moderne aussi, mais c'est marginal, mais c'est une partie de l'explication additionnelle, impose aussi des choses dont on bénéficie de confort, d'un certain luxe, les téléphones portables, des voitures climatisées, que sais-je, qui peuvent contribuer aussi au coût de la vie.
Zora.
Une chose est claire, c'est que les Français ont le sentiment, et économiquement, ça, il y a une raison, enfin, il y a une explication, mais ils ont le sentiment que leur salaire ne leur suffit plus à vivre correctement. Ce qui n'était pas le cas dans certaines générations. Avant, on était ouvrier, on pouvait acheter sa maison, on pouvait acheter son appartement, etc. Aujourd'hui, qu'on gagne 1008, 2002 ou 2005, de toute façon, plus on monte avec des enfants, plus l'État se sert au passage. Et comme le disait si justement Olivier, c'est qu'on taxe trop le travail. On taxe trop la production de la richesse. C'est-à-dire qu'on est en France, on dit l'État-providence. Mais l'État-providence, il vient bien de taxes. C'est-à-dire que pour pouvoir redistribuer, il faut bien aller chercher les sous quelque part. Et en priorité, on va aller les chercher chez les travailleurs. Donc, au prorata de ce que vous gagnez, l'État vous taxe encore pire. Donc, ça veut dire qu'on pénalise la circulation de l'argent, et y compris la circulation de l'argent pour consommer des biens produits en France. Parce que les gens n'ont pas les moyens, les produits qui sont fabriqués en France, on n'a pas les moyens. Sans compter qu'aujourd'hui, le logement, ce n'est pas le logement d'hier. Le logement, c'est une grosse partie du budget des Français, en particulier dans les grandes villes et les villes moyennes, où beaucoup de jeunes n'arrivent pas à se loger. Et parfois, ça impute, voire la moitié, voire beaucoup plus que leur salaire. En plus, il y a aussi la question du parallèle entre quelqu'un qui a un petit salaire et quelqu'un qui a des revenus sociaux. Aujourd'hui, le restant à vivre, parfois pour une femme seule avec deux enfants et qui aurait un peu plus d'un SMIC, et ben à la fin, il lui resterait quasiment la même chose, voire moins ou pareil que quelqu'un qui aurait des revenus sociaux. Donc en fait, la règle du jeu qui consiste à tout le temps ponctionner les gens qui travaillent, à la fois les employeurs qui, eux, de toute façon, dès qu'ils veulent donner 200 balles de plus à leurs salariés, se font racketter 500. Donc eux, de toute façon, ils sont prisonniers. Et puis, le salarié, il a l'impression de moins bien vivre. C'est une réalité. Donc on peut pas à chaque fois faire les poches des Français alors qu'ils ont le sentiment, on leur dit vous mangez, vous payez un loyer, vous payez les factures, en fait quid de la vie quoi. Partir en vacances, à l'époque les ouvriers ils partaient 4 semaines en camping. Aujourd'hui un camping, un mobilhome, c'est entre 1000 et 1500 euros la semaine. C'est-à-dire que les classes moyennes et les classes populaires sont maintenant exclues d'un tas de choses que les générations qui précèdent avaient accès. Donc oui, il y a un sentiment de à la fois moins bien gagner sa vie et puis de moins bien vivre.
Et quand tu as augmenté, il y a de la frustration parce qu'en fait on augmente ton brut, mais en fait, comme c'est pris, il y a les cotisations, les impôts, il y a beaucoup de gens.
Mais c'est quelque
chose qu'on entend beaucoup, c'est que je gagne plus, mais je ne le vois pas en fait. Donc il y a une espèce de sentiment
de frustration. Mais parce que quand l'employeur te donne 100 euros, l'État au passage en rackette une partie.
Et avec un peu de chance, tu changes de tranche d'impôt.
Voilà, en plus.
En fait, tu as deux choses qui se télescopent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec les réductions de charges, on a créé des trappes à bas salaire.
En plus.
Tu as l'offre de consommation qui s'est élargie.
Mais oui.
Donc en fait, tu gagnes effectivement peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Mais c'est surtout que tu as le sentiment de frustration qui s'est amplifié.
Oui.
Et donc tu te dis, finalement, à quoi sert que je bosse?
Mais oui.
Puisque tout ce qu'il y a autour de moi, je peux me payer qu'une
Le pire, c'est les gens qui te disent, non, mais enfin, tu gagnes 2000, 2005 avec deux enfants, vous gagnez 3000 à deux, tout va bien. Sauf que non, ça se passe pas comme ça, parce que quand tu gagnes 3000, c'est cantine plein pot, centre aéré plein pot, crèche plein pot, tout plein pot, et certes, t'es au plafond.
Après, ça a été un choix collectif en France. Contrairement à d'autres pays, comme des pays plutôt anglo-saxons, on a fait le choix de la protection plutôt que du revenu.
Oui.
C'est-à-dire, certes, on accepte en France d'être moins bien payé. On est moins bien payé qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne,
etc.
Bien sûr. Mais rassurez-vous, on va vous soigner gratuitement. Vos enfants vont aller à l'école.
C'est plus vrai.
Et on va tout prendre en charge.
C'est plus vrai.
Le problème, c'est que derrière, ça ne suit plus.
Non, c'est plus vrai.
On s'aperçoit qu'à l'hôpital, le service n'est plus aussi bien qu'avant. Il y a les mutuelles qui augmentent. À l'école, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à mettre leurs enfants dans le privé parce qu'ils pensent que l'école publique ne rend pas les services demandés. Donc, en fait, ce choix de la protection sur le revenu, ce choix collectif, il est remis en cause. Est-ce qu'il faut aller vers un modèle anglo-saxon ou est-ce qu'il faut améliorer notre système?
Il faut préciser, il est remis en cause non pas parce qu'il est inutile, c'est parce qu'il est mal fléché, parce qu'il est mal utilisé.
Parce qu'il sert aussi à financer des choses.
Oui.
Encore une fois, excusez-moi, mais c'est l'obsession. Quand tu suspends la réforme des retraites, forcément.
Oui, il faut la financer.
Tu peux pas augmenter derrière les salaires. Puisque une partie de notre salaire part pour financer les retraites.
Oui, mais c'est comme ceux qui disent les transports gratuits. À la fin, il y a quelqu'un qui paye. C'est toujours il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin, donc c'est celui qui va gagner 3000 euros à qui on va dire écoute, t'auras 50 euros d'impôt par an en plus.
Et tout le discours à un moment donné qu'on entend un peu moins, mais qui consistait à dire dans une partie de la gauche, pas toute la gauche, qu'il fallait aller vers la décroissance pour sauver la planète. Très bien, mais la décroissance, c'est moins d'emploi.
C'est moins d'emploi.
C'est moins d'emploi. Donc comment on finance notre système
très généreux ? Dan est auxiliaire de vie. Il intervient au 32-16. C'est sa première avec nous. Il est dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Dan.
Bonjour les Grandes.
Bienvenue. Vous êtes auxiliaire de vie. Donc je le rappelais. Est-ce que vous êtes dans, parmi ces deux tiers des Français qui se sentent, qui estiment être mal payés alors ? Dites-moi.
Oui. Oui. Alors, moi, en fait, je voulais réagir. C'est juste vous dire une petite phrase. C'est pas, en fait, qu'on soit mal payé, c'est le coût de la vie qui est trop cher, donc on peut pas s'en sortir.
Les loyers, par exemple.
Oui. Ma petite phrase, c'est avant, une baguette de pain coûtait 1 franc. Maintenant, elle coûte 1 euro. Avant, une voiture coûtait 30 000 francs. Maintenant, c'est 30 000 euros.
Mais on avait des voitures de plus en plus sophistiquées avec plein d'électronique.
Oui. Non, mais enfin, 30 000 francs, 30 000 euros,
attendez, laissez parler Dan.
Avant, une maison, ça coûtait 200 000 francs. Maintenant, ça coûte 200 000 euros. Par contre, avant, moi, j'étais payé 6 000 francs. Mais je n'ai pas été payé 6 000 euros. Là, ils ont bien fait la conversion. J'ai été payé 1 000 euros. En fait, le coût de la vie a explosé de 6 par rapport à l'euro. Mais nos salaires, ils ont bien fait la conversion.
Oui, c'est-à-dire les salaires n'ont pas suivi.
Voilà.
Oui, mais là, moi, je viens de recalculer pour les entreprises que j'ai dirigées pendant plusieurs décennies, des entreprises 50 salariés, 100 euros net. Je fais ça vraiment en calcul mental. On dit, faut faire un geste, on augmente les salariés, on est 50 de 100 euros net. Ça fait 125 brut, ça fait à peu près 180 chargés, ça fait à peu près 2200 par salarié en coût annuel chargé. Et donc, vous êtes 50, ça vous fait 100 000 euros. Pourquoi il faut générer 100 000 euros de résultats, pas de chiffre d'affaires pour pouvoir augmenter le salarié de 100 euros.
D'accord, Emmanuel, mais pourquoi elle est toujours sur les augmentations collectives? Pourquoi on n'est pas sur la performance individuelle?
Mais
bien
sûr, non, mais on est sur la performance.
Quand tu fais le même boulot, comment tu
parles d'un geste quand il y a
quand tu fais le même boulot, et là, entre vous deux, pourquoi il y en a des deux qui seraient mieux payés? Tu crois que tu accepterais qu'ils soient mieux payés que toi? Alors, tu peux dire, ouais, il a 8 ans de plus.
Mieux payé que lui.
Bah, déjà, mais tu vois, en fait, c'est ça l'idée. Quand tu fais le même métier, nous, SNCF, moi, je vois des fois,
vous n'êtes pas tous le même métier et vous n'êtes pas tous aussi.
Non, mais attends, laisse-moi finir déjà. Ça serait, tu sais quoi, à un moment donné,
je vais juste te dire un truc.
Non, mais moi, je t'interpelle, je vais juste te dire un truc. SNCF, ceux qui sont de la même pas le même métier, mais soi-disant dans la même catégorie, on fait des notations pour les mêmes personnes. Mais le mec qui travaille en DAI et moi qui travaille à Paris, qui sait qui travaille le mieux? On fait pas le même métier. Donc, à un moment donné, les notations individuelles, ça m'a toujours fait rigoler. Ça se voit que tu n'es pas soumis aux notations individuelles. Moi, je te dis, vas-y un jour.
Plaisante. Moi, j'ai toujours travaillé dans le privé. On est
payé. Non, t'es soumis à rien. Toi, t'as juste à dire à ton taulier, écoute, moi, je vais me barrer, on m'a demandé plus ailleurs. Ah, bah, tiens, je vais te garder, on donne plus. Non, mais ça marche bien, ça. Moi, si je dis ça à mon taulier, tu vas voir comment il va me dire.
Ah, déjà, tu n'as jamais travaillé dans le privé.
Ah, si, j'ai travaillé dans le privé, je pense, bien avant toi.
Tu ne parles pas de.
Et deux, j'ai commencé ma carrière à 18 ans dans le privé.
Dans le privé, c'est souvent la performance individuelle, justement. Et alors, je suis d'accord avec toi. Souvent, et ça, c'est le problème du management, souvent, il faut aller bosser ailleurs pour être augmenté. Mais ça, c'est peut-être un problème du management.
Faut faire peur.
Mais dans le privé, tu es soumis, effectivement, à une performance individuelle. Pourquoi ne pas? Je suis désolé, il y a des profs qui sont meilleurs que d'autres. Moi, ça me choquerait pas.
C'est quoi la différence entre un bon prof et un mauvais prof?
Oh, bah, c'est facile. Hein.
Ah, bah, Dan, dis-moi, moi, j'attends de voir.
Hein. Je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez, attendez une seconde, est-ce que vous pourriez être augmenté, Dan, vous?
Ça m'étonnerait, non.
Pourquoi?
Ben, parce que les salaires sont bas, les grilles sont comme ça, et moi, j'ai que 5 ans de boîte, je peux pas prétendre à une augmentation comme ça.
Si vous avez l'impression parfois de mieux faire votre travail que quelqu'un d'autre ou pas?
Oh, je me compare pas aux autres. Je suis bien meilleur, je sais, mais je me compare pas. Non, en fait, ce que disais aux autres journalistes, moi j'ai la chance d'avoir fait 20 ans d'armée. Je suis retraité militaire, pensionné militaire, donc je touche une pension de 950.
D'accord, ça vient en complément.
L'auxiliaire de vie, voilà, là l'auxiliaire de vie, j'ai demandé un contrat 100 heures pour avoir du temps pour moi, ce qui fait le complément. Donc voilà, je touche 1100, donc au total, je touche 2000. J'ai un petit peu d'épargne, donc je me restreins pas dans la vie. Je fais des restaurants avec ma copine, ça, y a pas de souci. Le problème, c'est le coût de la vie qui a augmenté.
Et c'est ça,
bien sûr.
C'est ça, les salaires. Avec 2000 euros, normalement.
C'est le coût de la vie et c'est l'éventail de propositions qui s'est largement élargi pour le citoyen. Dan, on va continuer la discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui sont dans la frustration, des 61% français qui estiment être mal payés? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à augmenter davantage les salaires? C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les grandes gueules. Restez avec nous, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
61% des Français sont insatisfaits de leur salaire aujourd'hui. À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce qu'effectivement on est vraiment mal payé, ou est-ce que c'est un problème aujourd'hui d'une société qui a complètement changé et on n'arrive pas à consommer comme on devrait, comme on le pouvait, ce qui crée ce sentiment de frustration. Cécile veut en discuter avec nous. Elle est en Charente-Maritime. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Bienvenue au 32-16. Est-ce que vous vous estimez être mal payé aujourd'hui, Cécile?
Très mal, oui.
Combien vous gagnez?
Là, dernièrement, en fait, je touchais 2300 euros net.
Oui. Et vous arrivez à faire face au quotidien ou pas, alors, du coup?
Bien sûr que non, bien sûr que non. En fait, j'avais une vie meilleure avant. En fait, avant que le coût de la vie augmente, etc. C'est très compliqué. En fait, moi, j'ai toujours été dans la fonction publique.
Oui.
Et la fonction publique, en fait, vous paye de moins en moins, en fait. C'est catastrophique. Mmh. On en est à des CDD, des CDI, des CDI qui n'en sont plus, en fait, dans la fonction publique, avec des salaires qui sont misérables. Moi, je suis infirmière anesthésiste. Et donc, du coup, j'ai fait mes études d'infirmière.
Oui.
J'avais 19 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans dans un hôpital public. Après, je suis partie faire mes études d'infirmière anesthésiste dans le sud. Et en fait, quand j'ai vu les salaires, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Vous faites 5 ans d'études. Vous avez entre les mains la vie des gens. Mmh. Et vous êtes payé quasiment comme une secrétaire. Alors, c'est pas pour dénigrer les secrétaires. Hein. Mmh. C'est absolument
Je comprends ce que vous voulez dire. Vous avez d'autres responsabilités, bien évidemment. C'est ce que vous voulez dire. Quoi. Oui, bien sûr.
Voilà. Ça, c'est intéressant ce qu'elle vient de dire. Parce que beaucoup de postes qualifiés, finalement, se retrouvent à peine au-dessus du minimum. Donc, en fait, tu fais des études, tu as un poste qui est qualifié, à responsabilité, tu es infirmière anesthésiste, donc tu as quand même une responsabilité, et finalement, ton salaire, c'est à peine au-dessus du salaire
décent. Bienvenue dans la fonction publique. Hein.
Oui, non, mais je pense que c'est très frustrant, c'est parce qu'on parle de la frustration de consommation. Moi, je n'y crois pas trop à cette explication. Moi, je pense que c'est la frustration par rapport à la responsabilité qu'on doit assumer. Je suis désolé, quand tu es infirmière anesthésiste, ça vaut plus que 2300
nets. Rajouter juste quelque chose. Quand les gens ont des salaires bas, au SMIC, voire un tout petit peu plus, pourquoi le travail n'est pas respecté et les travailleurs ne sont pas respectés? Parce que les minima sociaux, pour avoir des prix de crèche, de cantine, de CMU, pour être aidés, en fait, les travailleurs pauvres sont exclus de la protection sociale et des minima sociaux. Et ça, c'est un drame. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « je me lève, je travaille, je suis pas feignant, je participe à la richesse du pays, mais malheureusement, mon salaire ne me permet pas de joindre les deux bouts, mais je n'ai pas le droit à la CMU parce que je gagne trop, comme si gagner 1500, 1600 euros, c'était trop. La crèche ou la cantine, il y a quasi jamais de gratuité pour eux. Les centres aérés, n'en parlons pas. Les activités sportives, souvent, les gens peuvent pas parce qu'ils rentrent pas dans les grilles. Donc, imaginez ce qu'il faut gagner, c'est-à-dire rien pour être protégé. Or, il faut aider les travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'il faut remonter la protection sociale, ce pourquoi tout le monde paye, pour aider les gens qui travaillent. Il faut aider les gens qui travaillent.
De toute façon, il n'y a plus d'argent. Donc,
Non, mais si, tu le reflèches, tu changes.
Il faut arrêter.
Il n'y a
plus d'argent. Il faut qu'ils soient mieux payés.
Mais tu sais, ça sera obligé.
Il faut être mieux payé. Je comprends pas que moi, que les gens soient aussi mal payés, en fait. Si tu travailles.
Il faut moins de social.
Moins de protection sociale
et plus de revenus. Les gens, quand ils seront bien payés, ils débrouillons tout seuls.
Il y a des grosses boîtes en France qui payent très bien leurs salariés.
Je veux taxer leur PDG
qui t'empoisonne et qui après qui te dit, là je prends un j'ai un pari de 30 000 euros.
Oui, mais regardez, vous êtes sur des solutions utopiques. Il faudrait que les employeurs augmentent les salaires de 30%. Oui, d'accord, ok. Mais si on commence par taper dans la caisse qui existe du social, du 32% du PIB, dont les retraites, qui est distribué n'importe comment et qui cause des fractures entre les gens, parce
sociale,
que celui
tu verras que
celui,
ton revenu augmente.
Mais non, mais celui qui allez, celui qui se lève le matin, il a l'impression d'être le pigeon qui dort. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça pose un problème.
Pour revenir au cas de Cécile qui est au téléphone, il y a aussi une remarque qui est importante, c'est qu'elle s'est beaucoup investie dans ses études, ça coûte beaucoup d'argent, donc
pour employer un grand mot, il n'y a pas de retour sur investissement.
Ah, allez-y, Cécile, pardon.
Oui, je veux juste rajouter quelque chose. En tant que fonctionnaire, titulaire de la fonction publique hospitalière, quand vous perdez votre emploi aussi, vous n'avez droit à rien. En fait, vous n'êtes même pas inscrit, vous n'avez pas droit au chômage, vous n'avez aucun droit, en fait, en tant que fonctionnaire. Donc c'est ça qu'il faudrait peut-être changer aussi dans la loi, c'est que malheureusement, la fonction publique est en train de péricliter et on offre maintenant que des CDD dans la fonction publique hospitalière. Alors, je parle que de la fonction publique hospitalière, mais je sais par des amis communs que dans la police, dans l'éducation nationale, c'est la même chose. Et on vous dit, en tant que fonctionnaire, vous inscrivez à France Travail et on vous dit, vous avez droit à rien.
Alors, Cécile, vous avez donné, vous, votre point de vue en tant qu'infirmière. On a Omar, qui est chef d'entreprise dans le Haut-Rhin. Bonjour, Omar.
Oui, bonjour.
Bienvenue au 32-16. Là, on a écouté des salariés. Vous, c'est le chef d'entreprise qui voulait réagir.
C'est ça.
Quand vos salariés vous disent, le travail ne paye pas, on est mal payé, qu'est-ce que vous répondez, alors?
On leur répond qu'on n'y peut rien. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai un jeune, c'est son premier travail, hein. Il est venu travailler chez moi, etc.
Quel secteur ?
Premier que je paye, dans la restauration.
D'accord.
Il est venu, à la fin du mois, il me dit, écoute, j'ai un souci, pourquoi est-ce que tu me déduis tout ça ? Je lui dis, pardon, comment ça je te déduis ? Mais en fait, il comprenait pas le brut et le net.
Bah oui. Beaucoup.
Voilà. Et voilà, il comprenait pas le brut et le net, mais en fait, il était dégoûté parce que au final, moi, je passais pour quelqu'un de malhonnête et finalement, j'ai dû lui dire, est-ce que tu connais l'URSSAF? Il m'a dit oui. Donc, je suis allé sur le site de l'URSSAF et j'ai fait la simulation. Mais en fait, on était bon à 1 euro près. Et en fait, il me dit, ah ouais, mais en fait, ça sert à rien que je travaille, autant que je reste chez moi.
Voilà. Ça décourage.
Voilà.
Mais c'est terrible, hein.
Et aujourd'hui, je lui ai montré une synthèse qui était claire, nette et précise. Je lui ai dit, regarde, si je te verse 10 000 euros de salaire, regarde combien ça me coûte. Mais en fait, il était dégoûté. Il m'a dit, non seulement ça sert à rien que je travaille, mais j'ai pas du tout envie d'être patron. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une situation qui est très compliquée, même nous, les chefs d'entreprise. Moi, pour ma part, c'est devenu très compliqué parce que toutes les matières premières augmentent, les charges augmentent. Ma CFE, cette année, elle a explosé. Pourtant, j'ai pas fait plus de chiffre d'affaires que l'année dernière.
Qu'est-ce que vous appelez la CFE? Faut expliquer.
Contribution.
La cotisation, voilà. C'est en fait la taxe professionnelle qui a été remplacée par la CFE. Donc aujourd'hui, en fait, c'est devenu très, très, très compliqué. Nous, nos confrères, mes confrères que j'ai actuellement sur Mulhouse, on en a ras-le-bol, en fait, parce qu'on se rend compte, en fait, que ça ne sert plus à rien de faire ce qu'on fait. On n'a plus envie.
Alors, Omar, restez avec nous, parce qu'on a Karim, qui est chauffeur privé, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour, Karim.
Bonjour Alain, bonjour tout le monde.
Bonjour Karim.
Alors Karim,
bonjour,
par rapport à votre salaire, vous faites partie de ceux qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils gagnent ?
Mais pas du tout, mais en fait c'est devenu très très compliqué en fait. En fait je vais vous expliquer, en fait je gagne presque 2200 euros par mois. Et là en attendant de passer à l'antenne, j'ai fait les calculs, j'ai à peu près en charge presque 1780 euros par mois.
Ah oui ?
En
charge fixe, le truc qui part forcément quoi.
Ah oui, qui part forcément parce que
le loyer, tout ça, Karim, c'est ça.
Bah oui, c'est ça en fait, c'est le loyer au crédit. Derrière, on a une taxe foncière qui n'arrête pas d'exploser.
Oh,
oui. Ça c'est vrai.
Alors là, je vous en parle même pas. Là, j'ai regardé pour le mois de janvier, comme je disais à votre.
Vous êtes propriétaire et vous remboursez un crédit chaque mois.
Je rembourse un crédit chaque mois. D'accord. Je suis propriétaire. J'ai la
taxe. Et la taxe foncière, Karim, c'est combien tous les mois?
La taxe foncière, c'est 130 euros tous les mois.
Oui, il y a des gens, ils sont à 300-400.
Mais on est à 1300, mais c'est pas ça, c'est que l'électricité, je viens de payer une facture au mois de janvier, régularisation, parce que c'est la régule du mois de janvier, de 320 euros. Donc en fait, mon électricité qui était de 100 euros, l'année prochaine va se retrouver à 130 euros. En fait, ça fait qu'augmenter, en fait. Il y a tout qui augmente. Et en fait, comme je disais que
Et votre salaire n'augmente pas, proportionnellement.
Non, mais mon salaire, il a arrêté d'augmenter. Ça fait longtemps qu'il augmente plus.
Vous êtes deux, Karim, vous êtes marié, vous avez deux salaires?
Je suis marié, ma femme ne travaille plus.
D'accord.
J'ai deux enfants. Mais le truc, c'est qu'en fait, même si la femme ne travaille plus, en fait, même si on veut recevoir, par exemple, pour la cantine, je paye les deux. Par exemple, quand on est obligé de les mettre à la cantine, je paye. Parce que ma femme cherche du boulot en ce moment. Donc, je paye. Mais en fait, le calcul se fait sur l'année où ma femme travaillait.
Ah oui, c'est en décalé, ouais.
C'est en décalé, en fait. Donc, en fait, je paye toujours plein pot, en fait. J'ai des factures de cantine quand le reste tout le mois, c'est 230 euros. Mais en fait, c'est qu'en fait, on est obligé de jouer avec le système. Donc, le système, c'est travailler au black à côté, en fait. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça, en fait.
Vous êtes obligé de faire du black à côté.
Ben bien sûr, mais
il encourage hein, quand même. Hein.
Mais presque tous les week-ends en fait. Il y a pas de.
Et du coup, avec le black, vous arrivez à vous faire combien en plus?
Ben avec le black, j'arrive à me faire par exemple des 100 euros le samedi, 100, 120, 130 le dimanche.
Ça paye la cantine.
Oui, non, mais en fait le problème c'est que on travaille, mais c'est que derrière en fait ça a des répercussions sur la famille parce qu'on travaille tous les jours en fait.
Bien sûr.
Oui, parce que si vous travaillez le week-end,
vous avez du temps en plus.
Ouais, vous êtes toujours perdant. C'est-à-dire vous êtes toujours perdant quoi. Voilà.
Mais je suis toujours perdant parce que j'arrive le samedi, je suis irritable le dimanche, je suis énervé le dimanche soir.
Et vous voyez pas vos enfants en plus.
Ouais, je vois pas mes enfants. En fait, c'est ça en fait, c'est qu'on est rentré dans un système où maintenant le mieux c'est de trouver. De se mettre peut-être au chômage et de travailler au black à côté sur 5 jours. Voilà, sur 5 jours. Et franchement,
c'est Karim, Karim, CQFD, merci à Karim, merci à Omar pour leur témoignage, aussi le chef d'entreprise, le salarié. Merci à tous les deux, merci messieurs. Merci. Bonne journée, à bientôt. Il est 10h25, dans un instant, le On s'en fout, on s'en fout pas, restez avec nous.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, vous êtes avec les grandes gueules en direction RMC et RMC Story. Vous êtes avec Emmanuel Devilliers, Bruno Poncet, Zora Bitant. Et vous êtes surtout avec Naïs Inès Sainz. C'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas. Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public se poursuit, les GG, et son lot de spectacles aussi. Avec cette passe d'armes hier entre le rapporteur Charles Aloncle et le président de la commission, Jérémy Patrier-Létu. Au cœur de l'altercation, les actionnaires de Media One, la société qui produit des émissions pour France Télévisions, dont C'est à vous et C'est dans l'air. Est-ce qu'on s'en fout ou pas de cette altercation, ma chère Zora?
Non, on s'en fout pas.
Après. Bruno.
Non, on s'en fout pas.
Emmanuel.
On s'en fout pas.
On écoute tout de suite ces pop-corn.
Arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger.
Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires.
Non, plus non, 50%. C'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur.
Monsieur,
vous avez été entrepreneur.
Une entreprise. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains. Mais monsieur le président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être, avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre.
Merci, monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux.
C'est une question.
Faux.
Pourquoi vous me répondez à chaque fois?
Merci, messieurs les ministres.
Mais non, mais... Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps?
Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux, et donc je mets fin à cette audition.
Monsieur le président,
et je remercie les ministres.
Monsieur
de leur présence.
Le président, j'avais.
Voilà, suspension de séance. Séance agitée. Hein. Zora, pourquoi tu t'en fous pas?
Oh, c'est les guignols, je sais pas. Non,
ah
mais
bon
c'est.
Non, ah non,
mais
bah, je trouve ça ressemble aux grandes gueules.
Oui, aux grandes gueules, évidemment, mais non, mais personne peut nous imiter, nous.
En moins bien.
En
mieux payé aussi.
En moins bien, oui. Non, c'est affligeant, ces gens qui sont censés avoir des responsabilités et constituer ceux qui détiennent, en tout cas, le savoir et le pouvoir, se comporter comme ça. Voilà, ça en dit long. Moi, je suis atterré de voir à la fois à l'Assemblée et à la fois comme ça dans des commissions et ailleurs les gens se comportaient de la sorte. Enfin c'est le fond, c'est même pas l'histoire du fond, c'est l'histoire de comment on se comporte. Et en fait non, mais ça a toujours existé, bien sûr. On a vu des passes d'armes bien pires que celle-là, mais peut-être avec plus d'élégance, peut-être avec plus de respect.
Il y a pas d'invective là,
d'accord, mais bon, voilà.
Moi je suis pas choquant, moi je trouve.
Oui, j'ai pas dit.
Emmanuel.
Oui, bah, je rejoins Zora. Ce qui est très amusant dans cette séquence, c'est le décalage entre les formules, Monsieur le Président, Monsieur le Fondé de Pouvoir, Monsieur le Délégué Général, oui.
Monsieur le Rapporteur.
Voilà, je suis rapporteur.
Et le reste.
Mais Jérémy, mais t'en vas pas, il y a des frites à la cantine.
Reviens, j'ai les mêmes à la maison, Bruno.
Oui,
non, mais ce qui craint, c'est que quand on montre les deux en train de faire les cons là, en fait on parle pas du vrai sujet. En fait le vrai sujet, c'est que dans cette commission, évidemment elle est à charge depuis le début sur le service public. Quand tu demandes à une femme si son mari ou son mec se présente aux élections, est-ce qu'elle va sortir? Enfin, à un moment donné, c'est quoi l'histoire? Elle, heureusement qu'elle a répondu en expliquant que ben, elle est pas obligée de penser comme lui, mais que oui, effectivement, elle sortira. Mais je comprends. Enfin, en fait, on est dans un truc.
C'est quand même 4 milliards d'argent public.
Oui, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi c'est des boîtes privées qui produisent les programmes de.
C'est une bonne question.
Public. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas de se dire.
Bah, c'est pour ça qu'il parle de MediaOne.
Ouais, mais MediaOne, c'est pas de dire qu'après. En fait, il parle de MediaOne, mais qu'il parle vraiment du sujet, c'est le financement. Après, que le financement de MediaOne vienne de boîtes étrangères, bah, dans ce cas-là, toutes les boîtes étrangères aujourd'hui, la plupart des boîtes françaises ont des investisseurs étrangers quelques produisent hein, et même des investisseurs des boîtes publiques.
Non mais la question de savoir est-ce que ton argent qu'on te prélève chaque mois sur ton salaire de cheminot doit financer une entreprise qui a des fonds américains, voilà.
Ah, moi je préfère on est d'accord, mais moi je préfère qu'elle finance des programmes culturels.
C'est la seule question qui vaille.
Des programmes culturels, et si c'est des boîtes américaines, là le problème il est là. Pourquoi nous en France on n'est pas capable de produire des programmes de qualité? On est obligé de faire venir des Américains pour le faire. Moi je comprends un peu.
Mais parce que étonnamment dans la loi audiovisuelle, on impose à France Télé de faire appel à des sociétés extérieures. C'est ça.
Donc la loi, c'est bien des gens comme lui qui l'ont voté.
Ouais, et avant eux, parce que
oui, avant eux, mais ça reste des députés qui ont voté une loi comme ça, de donner de l'argent public au privé, comme d'hab.
Non. Les GG, la France est sauvée. Elle est là, la candidature qui va redresser le pays.
For sure.
Celle de Jérôme Guedj, le député socialiste. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Emmanuel?
Ben c'est un gros pchit, donc on s'en fout.
Zora?
Non, on s'en fout pas.
Bruno?
Je m'en fous littéralement.
Il l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France Inter. Jérôme Guedj veut ainsi porter la voix d'une gauche républicaine, européenne, universaliste, laïque, sociale et écologiste, Zora.
Voilà. C'est l'occasion de dire même avec tout le respect que j'ai pour Jérôme Guedj, et je pense que c'est un vrai républicain, il arrive après la bataille. C'est trop tard.
Ah bon?
Oui, c'est trop tard. C'est trop tard. La France est trop fracturée. La question de la République qui est centrale, elle est portée par personne, quasiment pas. Et puis la gauche s'est trop trahie et a trop traîné de déni et de complaisance sur un certain nombre de sujets. Donc Jérôme Guedj, avec toute la meilleure volonté qu'il a, le peuple de France n'est quasiment plus à gauche. D'abord, il est député ou il aura pu voter. Et je vois pas la gauche républicaine sociale démocrate, je vois pas ce que c'est aujourd'hui, il faudra qu'il nous explique entre les uns qui ont basculé à l'extrême gauche. Non, c'est trop tard. Moi c'était mes copains les socialistes pendant 20 ans. Bah vous arrivez après la bataille, vous avez trop été dans le déni et la complaisance, bah maintenant c'est bien fait pour vous, vous allez attendre votre tour. Une prochaine fois, on passera certainement par des zones de turbulence avant, mais en tout cas, vous en avez été un des créateurs et Jérôme Guedj comme Anne Hidalgo et comme tout le PS Olivier Faure etc. Ouais. Ils peuvent agiter toutes les candidatures qu'ils veulent. La France est partie déjà ailleurs et elle attend l'ordre, l'autorité et elle attend autre chose que encore du mou.
Tu ne voteras pas Jérôme Guedj, on a bien compris. Mais ce qui est intéressant,
non,
c'est
j'aime
que
bien Jérôme Guedj, c'est un vrai républicain. Mais
ce qui est marrant, c'est que Jérôme Guedj, il sort un peu de nulle part là, parce que ça surprend tout le monde. Pourquoi ce matin il décide d'être candidat? Il dit qu'il sera candidat hors primaire, donc ça veut dire que la primaire que certains veulent mettre en place, à mon avis, a du plomb dans l'aile parce que même lui ne veut pas la faire. Donc Luxman veut pas, Mélenchon veut pas.
Non mais...
Donc finalement, on ne sait pas qui veut faire la primaire après, à part Olivier Faure et Marine Tondelier. Et Jérôme Guedj, c'est un peu le syndrome Macron. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde se croit capable d'être candidat en étant sorti un peu de nulle part. Bon, c'est assez curieux, non, mais il y en aura d'autres, tu vas voir, il y en aura plein.
Oui.
Quand je vois que Clémentine Autain veut y aller, François Ruffin, enfin je vais à gauche, on va se retrouver avec 25 candidats. Hein.
Ruffin, il va à la primaire.
Oui, il va à la primaire. Ouais. Enfin, les candidats, ils sont présents.
Mais Olivier, ce qui est intéressant, c'est de dire je vais servir la gauche républicaine.
Parce que c'est ce qui correspond. Mais après, toi, tu n'y crois plus. Mais lui, il y croit. Il a le droit d'y croire.
Mais il y croit tout seul, quoi.
Ah, je suis pas sûr. Glucksmann a fait 14% européenne, donc il y a quand même encore. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a encore et d'autant notamment parce que Macron ne sera plus là. Donc il y a des gens de gauche qui votaient Macron et ces gens de gauche ne voteront pas Mélenchon et donc ils voteront quelqu'un de social-démocrate qui est Jérôme Guedj. Moi, j'y crois pas beaucoup à Jérôme Guedj, mais il y a quand même un créneau à prendre.
C'est surtout un coup de bâton sur la primaire à gauche, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mec qui sortira de la primaire à gauche, t'auras aucune intimité.
Oui, mais tous ces candidats, ils oublient une chose, c'est que, y a qu'un intérêt si on est candidat, c'est d'être au deuxième tour.
Oui, déjà.
Et puis, faut avoir les 500 signatures.
Aussi. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là?
Il est bon, ça, il faut le sortir.
Les GG, votre couple a-t-il survécu au mois de janvier, le mois des séparations, le mois de l'année qui enregistre une hausse des divorces?
Il y aurait même un divorce day le premier lundi de janvier. Alors pourquoi? En fait, ce serait le mois du passage à l'acte dans les couples déjà fragiles, après des fêtes de fin d'année parfois intenses. Hein. C'est le constat que font des cabinets d'avocats, selon nos confrères du Parisien. Vous savez que 75% des demandes de divorce sont initiées par les femmes. Janvier à risque pour les couples, donc, car c'est le moment de l'année qui connaît aussi un pic d'infidélité, selon le site de rencontres extra-conjugales Glidden. Vous avez survécu, vous, Emmanuel?
S'en foutez ou pas du mois de janvier?
Non, moi, je m'en fous pas. Oui, voilà. C'est intéressant, c'est
Bruno.
Non,
on
s'en fout pas.
Affirmatif, j'ai survécu.
Bon.
Pourquoi t'en fous pas,
C'est rigolo. Ça veut dire que je pense que la période de Noël où peut-être qu'on se lâche un peu et on se dit des vérités à table.
Surtout, on passe du temps ensemble et peut-être qu'on se dit, il faut
arrêter. Janvier lève le voile un peu sur un certain nombre de choses. Et le fait que 75% des femmes sont à l'initiative, tout le monde sait que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Ça, c'est, on n'a rien inventé.
C'est clairvoyant.
Et moi, mon couple, s'il a pas survécu, c'est pire que ça.
Vous avez passé combien de Noël avec
41.
Ça va.
41 Noël.
Et toi, Bruno, ton mari est arrivé.
Moi, je suis bien content.
On peut le saluer.
Voilà. Je suis bien content quand mon couple survit le soir. Tu vois, tous les soirs, je fais une petite croix. Bon, ça tient pas. Non, mais en fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, t'es quasiment à plus de 50% de divorce. Et derrière, ça fait des gamins malheureux parce que tous ceux qui ont été fils de divorcés, moi, j'ai perdu mon père à 8 ans. En fait, quand tu te retrouves avec
surtout quand tu ne sais pas, quand l'enfant est petit.
Ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que rapidement, un coup de vent peut te faire divorcer, en fait. Alors qu'en fait, avant, tu voyais même si tes parents
les gens s'accrochaient un peu.
Oui,
moi, je connais quelqu'un que je salue s'il écoute quelqu'un qui m'a chié dans les bottes. Et lui, il est plus fort, il est divorcé de père en fils.
Ah,
c'est remarquable.
Non, mais c'est vrai que dans les générations, dans beaucoup de couples, la longévité d'un couple, c'est traverser les tempêtes ensemble, tenir et accepter la mutation de la relation dans les sentiments. En fait, la passion, il y en a qui peuvent vivre l'amour que dans la passion. Ouais. Et puis, il y en a qui acceptent la mutation des sentiments.
Oui, la construction.
Et d'ailleurs, c'est une construction. Avec Yves, moi, j'ai connu Yves, j'avais 20 ans.
Enfin, t'as connu que lui, comme
j'ai
mec.
Connu Yves, j'avais 20 ans, on s'est marié. Non, bien sûr que j'ai pas connu Yves. Heureusement, d'ailleurs. Mais on s'est marié au bout de 3 mois. Après on s'est mariés vraiment à la mairie.
Paris.
Ouais.
Comment il t'a convaincu?
J'ai l'impression qu'on a fait la guerre ensemble. En fait, on a vécu des trucs. D'abord des drames, oui. Des trucs hyper durs, la maladie, la pauvreté, la précarité, l'extraction de sa condition sociale. Enfin, c'était très très. On a eu une vie dure, mais on est heureux, quoi.
C'est solide.
On est solide. Et puis ça se construit. C'est une construction intime qu'il faut accepter de traverser.
Moi, je crois que c'était l'été qui était fatal pour les couples.
Pour l'infidélité.
On peut plutôt positiver en pensant à tous ceux qui vont se rencontrer en 2026.
Ah bah oui, voilà.
Ouais, bien sûr.
Dans un instant.
Et qui divorce en 2027.
Et que je peux conseiller, je suis disponible aussi.
Dans un instant avec les GG.
Comment on traverse
les avec les grandes gueules. La France insoumise, désormais classée partie d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est justifié ou pas? Les élections municipales, est-ce qu'il va falloir autoriser le vote des étrangers extra-européens à ces élections locales? Et puis la prof poignardée à Sanary, toujours hospitalisée, on s'est aperçu que le gamin, il avait des couteaux chez lui parce qu'il trouvait ça stylé. Enfin, que font les parents? 32-16 pour en parler.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.